Bonjour à tous, vous écoutez Curious Live, l'émission des étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le premier épisode de cette quatrième saison. Alors d'abord, nous tenons à remercier chaleureusement RCF en Bourgogne pour la confiance qu'il nous accorde depuis ces quatre belles années. Parce que l'inclusion est l'un des enjeux contemporains auxquels nous devons faire face, le thème de cette année portera sur la communication inclusive. Mais avant de commencer cette émission, définissons ensemble ce qu'est la communication inclusive. Selon Léa Nyang, qui est consultante freelance en communication inclusive, on peut définir la communication inclusive comme, je cite, « une communication qui se veut représentative de la diversité des individus, respectueuse des cultures et des communautés qui sont habituellement minorisées et qui se détachent volontairement des stéréotypes et des normes sociales ». Alors, tendre vers une inclusion totale et faire en sorte que chacun soit inclus, c'est un vrai challenge aujourd'hui, et c'est pour ça que le thème de la communication inclusive et tous les enjeux qui en découlent derrière seront notre fil conducteur pour les 10 prochaines émissions. Mais le sujet qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, ce sont les stéréotypes dans la publicité et dans les médias. Alors tout d'abord, Flavien, c'est quoi un stéréotype ?
Eh bien, selon le Cambridge Dictionary, un stéréotype se définit comme une idée fixe que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée erronée. Un exemple typique de stéréotype de nationalité, ce serait de représenter un Mexicain avec une moustache, un sombrero, et qui par exemple ne mangerait que les mêmes plats considérés comme typiques, comme des tacos ou des fajitas. De la même manière, penser que le bleu est une couleur réservée aux garçons et le rose aux filles, chose qu'on va par exemple beaucoup retrouver dans les catalogues de jouets pour Noël, où il s'agit ici d'un stéréotype de genre. Qu'il soit de nationalité, d'âge, de classe, de religion ou donc de genre, les stéréotypes sont ainsi tellement enracinés qu'on les a inconsciemment intériorisés, sans même vraiment s'en rendre compte.
Alors d'ailleurs, on a demandé à des personnes dans la rue s'ils savaient ce que c'était un stéréotype et s'ils en avaient. Voici leur réponse.
C'est une idée reçue qui est ancrée depuis très longtemps dans les générations et qui aujourd'hui s'avère totalement fausse.
C'est un cliché, un préjugé qu'on a sur une personne au vu de ses caractéristiques physique ou de sa situation, soit financière ou de ses loisirs.
C'est le fait, par exemple, de juger des personnes sur leurs apparences.
C'est une idée reçue, un cliché qui est faite sur une certaine population par une autre. Souvent, cette insinuation est fausse et elle peut être avérée à la base d'une personne et prendre ce cas pour une généralité.
Une idée préconçue, enfin une idée qu'on se fait sur un genre, une population, etc., qui n'est pas vraiment avérée, enfin, ou en tout cas qui ne s'applique vraiment pas à toutes les personnes.
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de stéréotypes que vous avez en tête ?
Le stéréotype sur les femmes au travail, qui par exemple serait inférieur aux hommes, n'arriverait pas à faire certaines tâches, en mettant la priorité sur leur famille ou sur leurs enfants par exemple, alors qu'il y a de nombreux exemples de femmes qui arrivent parfaitement à gérer les deux, ou qui mènent une carrière tout à fait honorable.
Un auquel je pense, c'est qu'il y ait des sports qui soient classés comme étant que pour les garçons, comme le rugby, ou des sports qui soient au contraire classé que pour les filles, comme l'équitation ou la gymnastique.
Par exemple, les enfants dont les parents sont issus de classes sociales plutôt inférieures ne vont pas réussir à l'école aussi bien que d'autres. C'est faux.
Alors, comme on vient de le voir, et comme Flavien nous l'a dit, les stéréotypes sont partout. Tout le monde en a, ils sont a priori bien ancrés. Mais alors, pourquoi notre pensée est automatiquement redirigée vers des clichés comme cela ?
Bien, cette interprétation, elle est ancrée en nous, notamment à cause des médias, entre autres les publicités qui vont perpétuer ces stéréotypes depuis maintenant des décennies. Elles catégorisent une partie de la population, que ce soit au niveau de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'origine ou encore du genre, ce qui va renforcer les préjugés et contribuer à normaliser les inégalités. Le problème, c'est qu'on construit notre identité et notre manière de penser en fonction de ce qui nous entoure. Les médias vont façonner qui nous sommes et notre vision du monde, et ainsi vont jouer un rôle majeur d'influenceur de notre système de pensée et de réflexion. En fait, c'est encore plus le cas aujourd'hui, à l'ère de l'hyperconsommation. Donc quand ils diffusent, que ce soit volontaire ou non, des messages stéréotypés, en fait on va les intégrer inconsciemment dans notre quotidien et on va reproduire ces schémas.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui illustrent ce phénomène ?
Bien sûr. Par exemple, les stéréotypes relatifs aux femmes et aux hommes, ils sont tellement nombreux qu'il nous arrive souvent d'en rigoler, voire de même pas les remarquer, en fait. Mais c'est un fait. Selon une étude de l'ARCOM de 2017, les femmes sont majoritairement représentées dans les publicités qui vont concerner l'entretien du corps, à 63%, l'habillement et la parfumerie, 57%, les loisirs, à 56%, et les produits médicaux, à 55%. Au contraire, les hommes vont être beaucoup plus mis en avant dans les publicités autour des jeux d'argent, avec 78%, l'automobile, 64%, et tout ce qui va concerner les assurances ou les banques avec 59%. Toujours selon cette étude, dans les publicités qui sexualisent les acteurs, plus de 67% sont des femmes. A l'inverse, le nombre de femmes représentées dans des rôles d'autorité intellectuelle, à savoir médecin ou scientifique par exemple, n'est que de 4%. Et puisque l'une des techniques de vente principales des publicités est de nous faire acheter un certain produit en matraquant une information afin qu'elle entre dans notre cerveau, on finit également par assimiler cette vision biaisée des choses, et ça fait que renforcer les stéréotypes déjà bien ancrés dans notre société. Mais les publicités ne sont pas les seuls médias à perpétuer ces stéréotypes. Que ce soit les dictons populaires, l'humour, les symboles ou encore le langage, tous en fait y contribuent implicitement au quotidien. Ainsi, on peut se demander si c'est finalement la publicité qui influence un modèle social, ou si c'est le modèle social qui influence la publicité.
Merci Flavien pour ces précisions. Pour compléter ces propos, nous avons justement la chance d'être aujourd'hui accompagnés par Clémentine Hugol-Gentiel. Clémentine, vous êtes professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne, directrice du master MACI et aussi directrice adjointe du laboratoire Simeos. À partir de quand, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, vous avez été sensibilisée aux stéréotypes de genre et aux stéréotypes de manière générale ?
Merci beaucoup de cette question et de cette invitation. Merci Léa. Il est difficile pour moi de vraiment dater. D'un point de vue personnel, je crois que ça fait partie intrinsèquement de mon éducation, où toutes les portes m'ont toujours été laissées ouvertes, d'où, je pense véritablement, l'intérêt de l'éducation dès le plus jeune âge. L'école a également un rôle à jouer, les manuels scolaires aussi, car au même titre que l'ARCOM a souligné qu'il y avait des différences dans la publicité, il y a aussi des différences dans les manuels scolaires, des différences de genre qu'il faut souligner. Et d'un point de vue professionnel, je crois que dès mon entrée dans le monde du travail, j'ai été confrontée aux stéréotypes de genre. Mais il y a peut-être eu un événement qui vraiment a fait basculer les choses, c'est lors de ma première grossesse, il y a presque 10 ans maintenant.
Alors, grâce à toutes ces expériences, justement, vous avez acquis une certaine pensée critique autour des stéréotypes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur les stéréotypes véhiculés dans les médias ? Et pourquoi, selon vous, les médias et notamment les publicités utilisent à outrance les stéréotypes dans leur communication ? Qu'est-ce que ça leur rapporte en fait ?
Alors, en sciences de l'information et de la communication, effectivement, on s'intéresse à la mobilisation de ces stéréotypes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est finalement une économie cognitive que d'avoir recours à ces derniers. Cela ne demande pas trop de réfléchir, cela simplifie à outrance le monde que de dire, par exemple, dans les stéréotypes de genre, que les hommes sont comme cela ou que les femmes sont comme ci. Je dirais qu'il y a derrière cela une vraie paresse intellectuelle. Mais aussi, finalement, c'est se conformer à un ordre des choses qui serait immuable, et là aussi, cela renvoie à une forme de paresse que de ne pas s'ériger contre les inégalités. Les marques s'y conforment car dans notre société, toujours pour les stéréotypes de genre, nous sommes sans cesse invités à performer la virilité ou la féminité. Nous sommes face à de nombreuses injonctions, et les marques et la publicité y répondent avec beaucoup de simplicité, mais aussi pour vendre du rêve, parce que l'objectif de tout ça, c'est bien sûr nous vendre des produits derrière. Avec du type des messages « mettez cette crème anti-rides, vous ne vieillirez pas et vous ne deviendrez jamais une femme de plus de 50 ans invisible dans la société ». Alors bien évidemment, c'est simpliste, totalement faux, mais cela s'inscrit surtout dans l'injonction de ne pas vieillir ou de vieillir tout en restant jeune.
Et est-ce que vous pensez justement que les médias seraient prêts un jour à s'adapter et à abandonner les stéréotypes, quitte à perdre du profit ? Peut-être que certains commencent déjà à le faire.
Alors certaines marques commencent depuis plusieurs années, je dirais depuis une dizaine d'années, on voit des changements de cet ordre-là. Des marques confidentielles comme des grandes marques, mais cela reste tout de même à la marge et souvent ça cible aussi des populations plutôt jeunes. Mais il y a quand même un cas d'école qui a été particulièrement intéressant cet été, c'est le film Barbie, qui a fait un record d'entrée au cinéma à travers le monde et qui interroge les stéréotypes, avec notamment le personnage principal qui est tenu par Margot Robbie et qui joue justement le rôle de Barbie stéréotypée. Donc tout est dit ici. Mais elle ne fait pas que jouer le rôle de Barbie stéréotypée, elle réfléchit à son statut et à sa condition justement de stéréotype. Il en est de même pour Ken, joué par Ryan Gosling, qui est absolument délicieux dans ce rôle d'homme décérébré. Alors bien évidemment, là-dedans, c'est une logique commerciale qui est sous-jacente. Mattel est à l'origine de ce projet. Les ventes de Barbie ont d'ailleurs extrêmement augmenté ces dernières semaines. Mais c'est de la part de Mattel une perspective plutôt intelligente qui permet de remettre en cause publiquement les limites de Barbie et notamment cette femme blonde, grande, avec ses proportions qui sont absolument impossibles. Et c'est un très bel exercice communicationnel.
Alors oui, c'est vrai, le film Barbie est devenu en l'espace de quelques semaines seulement un phénomène incontournable, notamment grâce à ses campagnes de communication plutôt ingénieuses. Le film vient d'ailleurs de se classer comme le film le plus rentable de Warner Bros, avec une recette de plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Mais pour en revenir aux stéréotypes, Flavien, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, ils sont ancrés en nous depuis le plus jeune âge, mais les publicités et les médias ne sont pas les seuls à les propager. Selon une étude de l'université Flinders en Australie, nos goûts musicaux et nos émotions seraient aussi influencés par les stéréotypes. Incroyable, non ? En parlant de musique, je vous propose d'écouter maintenant Pendant 24 heures de Grand Corps Malade et Suzanne, qui est justement une chanson qui tend à lutter contre les stéréotypes, et plus particulièrement les stéréotypes de genre, en questionnant les normes sociétales et ce que ça représente d'être une femme ou un homme aujourd'hui. A tout de suite.
Vivre cette chance pendant 24 heures. L'ultime nuance vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24.
J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après quand t'es une femme, eh ben t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du
H. C'est le mag sur RCF en Bourgogne. Avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale MASSI, Léa Simonet, Flavien Bert.
Nous sommes de retour dans Curious Live, l'émission des étudiants du Master MASSI sur RCF en Bourgogne. Nous sommes en compagnie de Clémentine Hugol-Gentiel qui nous parlait justement des stéréotypes dans la communication et du fait que ce soit un frein majeur à l'inclusion. Alors nous nous sommes jusqu'à présent concentrés seulement sur le thème des stéréotypes du point de vue de la France, mais qu'en est-il ailleurs dans le monde ? Nous évoquions en début d'émission les idées reçues que nous, les Français, pouvions avoir à propos des autres nationalités. Mais il peut aussi être intéressant de se pencher sur les stéréotypes qui concernent les Français à l'international. Flavien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Les stéréotypes sur les Français, ils vont se rejoindre généralement selon les différents pays étrangers. C'est-à-dire la France, elle est bien sûr orientée par le prisme des différents médias auxquels ils font face, que ce soit les films et séries ou encore les réseaux sociaux. Le Parisien typique, sorte d'allégorie de l'ensemble des Français, est généralement dépeint comme ça. Pressé, arrogant ou encore mécontent, selon les dires des étudiants de l'école parisienne de langue. Ça va contraster avec l'idée que ces mêmes personnes avaient des Parisiens avant de venir dans la capitale, à savoir des personnes élégantes et surtout qui se promènent jamais sans leur fameuse baguette ou leur béret. Si Paris est à ce point synonyme de poésie de rêverie pour ceux qui ont encore jamais mis les pieds, le concept de syndrome de Paris a quant à lui été diagnostiqué par le docteur Hiroaki Ota dans les années 80. Celui-ci va refléter, principalement au niveau japonais, le trouble psychologique qui a été rencontré par certains lors d'un séjour à Paris, et surtout le décalage entre la ville qu'ils imaginaient et la réalité. Il peut alors se caractériser par un sentiment de rejet ou persécution. C'est dû notamment à la façon dont les Français s'adressent à eux, et d'une manière générale, la grande différence de culture entre les deux pays. Leur vision de la capitale française, elle est ici étroite, sublimée, parce qu'à télévision, tout est lisse et harmonieux, à l'image par exemple de l'alignement parfait des grands immeubles haussmanniens. Mais d'après Yoshikatsu Aoyagi, qui est le premier secrétaire du service consulaire à l'ambassade du Japon à Paris, je cite « On oublie trop souvent de filmer le trottoir ». Cette phrase, elle prouve ici que les stéréotypes, même s'ils sont positifs, peuvent s'avérer inexacts quand ils sont expérimentés.
Mais alors Flavien, comment faire pour combattre ces stéréotypes que l'on voit dans les médias ?
Ben, tout d'abord, c'est très important de cultiver son ouverture d'esprit afin de déconstruire ces stéréotypes. Comme l'a dit Clémentine Hugol-Gentiel un peu plus tôt, l'éducation a un rôle très important dans cette lutte contre les stéréotypes dans les médias, que ce soit à l'école tout comme en entreprise. L'enjeu ici, c'est de former les enseignants et patrons d'entreprise afin qu'ils puissent transmettre ces enseignements aux élèves tout comme aux salariés. Le rapport de l'UNESCO Gender Equality in Journalism, l'égalité professionnelle dans le journalisme en français, donne ainsi des conseils aux journalistes pour éviter de propager des stéréotypes de genre quand on représente un média. Un premier pas vers le changement, en quelque sorte, que tout le monde, pas seulement les médias, devrait ainsi mettre en œuvre. Parmi ces conseils, on trouve notamment le fait d'équilibrer le nombre d'experts ou de témoins femmes et hommes, de ne pas présenter une femme comme la femme de Monsieur X, mais par son nom, sa fonction officielle, ou encore d'éviter les descriptions physiques quand c'est pas nécessaire à la compréhension du sujet. Mais finalement, C'est aussi aux communicants et futurs communicants qu'incombe cette tâche de déconstruire ces stéréotypes et de ne pas perpétuer les stéréotypes actuels. Sont bien eux, au final, le lien entre l'entreprise et le public, la voix d'une marque ou d'un territoire. Mais ce changement de mentalité, il est aussi notable en dehors de l'Hexagone. Par exemple, une publicité Citroën, qui est parue en Égypte en 2021, avait été jugée sexiste par de nombreuses organisations féministes, que ce soit en Égypte ou même à travers le monde. On y voyait une star de musique locale prendre en photo, à bord de sa voiture connectée, une femme dans la rue à son insu. Dans un pays où, selon l'ONU, 99% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement de rue, et après de nombreuses protestations de la part de ces organisations pour dénoncer le caractère misogyne de l'annonce, elle fut finalement retirée par la marque. Mais cette dernière, elle alimenta d'ailleurs les contestations après avoir mentionné, je cite, « une mauvaise interprétation du message ». Alors, est-ce une provocation pour gagner en visibilité ou simplement une vision biaisée du sujet? Dans tous les cas, cet événement souligne une fois de plus la nécessité d'adapter sa communication afin d'éviter les retombées négatives.
S'il y a bien quelqu'un justement qui peut nous parler de ça, c'est Clémentine Hugolgentiel. Clémentine, comment faire justement en tant que communicant pour ne pas perpétuer ces stéréotypes?
Alors, il existe aujourd'hui des outils à disposition des communicants. Il existe des guides qui ont été publiés, et je pense notamment à l'association Toutes Communicantes pour les stéréotypes de genre, mais pas que, hein, pour également les stéréotypes liés aux questions des religions et autres. En outre, l'association comme Pépites Sexistes fait vraiment un travail de prévention auprès des marques et du grand public en les interpellant notamment directement. Et je pense que toujours du point de vue des stéréotypes de genre, mais pas que, il y a vraiment la question de la représentativité qui s'impose. On parlait tout à l'heure des catalogues de jouets avec les couleurs rose et bleu, donc effectivement, hein, faire attention aux couleurs, mais faire attention aux lieux. Est-ce que dans les lieux dans lesquels je mets en scène les personnes, est-ce que les femmes sont toujours dans des environnements domestiques versus les hommes toujours dans des environnements ouverts ou sportifs? Il y a également le nombre, on l'a vu, le nombre d'experts, comme vous venez de le dire, Flavien. Donc, il y a beaucoup de choses qui, a priori, peuvent sembler assez simples, mais on voit encore que ça reste compliqué. Il suffit de compter souvent le nombre de femmes sur un plateau d'experts, par exemple. Il y a un exercice que j'aime particulièrement, et en fait, qui reprend le principe de la chanson pendant 24 heures et que je trouve particulièrement efficace, c'est celui de l'inversion. Est-ce que je mettrai une autre personne dans la situation dans laquelle je la mets actuellement? Est-ce que je mettrai un homme en train de faire la vaisselle et de gérer les enfants, faire une quiche en même temps, etc. Sinon, pourquoi je mets une femme dans cette situation? Donc cet exercice d'inversion, il est particulièrement efficace pour révéler ce qui nous semble naturalisé, ce qui nous semble normal. Et donc, véritablement, je pense que c'est un très bon exercice et un très bon révélateur des stéréotypes.
Merci beaucoup Clémentine Hugolgentiel, merci beaucoup Flavien également. C'est déjà la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver en replay sur rcf.fr, rubrique culture, sous le nom C'est le mag étudiant Massy. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment les stéréotypes sont un frein à l'inclusion, n'hésitez pas à aller visiter notre blog, le Curious Blog, sur junioragencemassy.fr/blog. Belle soirée à tous! Votre programme continue sur RCF en Bourgogne, la suite de C'est le Mag dans une minute.